Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle qui nous colle au basque depuis presque 30 ans. L'affaire Turquin. Jean-Louis Turquin, un vétérinaire de Nice qui, en 1991, a tué son petit garçon de 7 ans pour reconquérir sa femme. Lequel Jean-Louis Turquin a depuis été assassiné. C'est une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec maître Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Voilà comment Jean-Louis Turquin, vétérinaire à Nice, raconte sa matinée du 21 mars 1991, à partir du moment où il se réveille vers 7h15 dans sa grande maison du quartier des Guéraux. À la veille, on s'était couché dans la même chambre, mon fils Charles-Édouard et moi. Et donc naturellement, quand je me suis réveillé, j'ai jeté un regard vers son lit. Et il n'était pas là. Il avait disparu. Il s'était volatilisé. Il dit qu'il a fait le tour de la maison, qu'il est allé dans le jardin et même chez les grands-parents qui habitent à côté. Charles-Édouard, 7 ans, avait disparu. Et le plus inquiétant, c'est que tout est là, quoi. Son doudou, ses vêtements. Il serait parti seul en pleine nuit, en pyjama. Enfin, ça tient pas debout. Et puis c'était un enfant tellement peureux. Il a tout de suite appelé la police. Quand les flics débarquent sur cette affaire, ils n'ont pas de piste. Un rôdeur ? Enfin, le père l'aurait entendu, il se serait réveillé, ils étaient dans la même pièce. Un rapt, alors ? Idem. Il s'en serait aperçu. Et par ailleurs, aucune demande de rançon ne tombe dans les heures et dans les jours qui suivent. Bon, j'ai regardé partout, hein. Toutes les portes, toutes les fenêtres. Il n'y a pas de trace d'effraction, aucune. Et moi, j'ai fait le tour des voisins. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Il y a bien une piste, et elle s'impose dès le début. Les parents. Les flics apprennent que ça va mal entre les parents. Ils sont en conflit ouvert et en instance de divorce. Et dans l'attente d'une conciliation, le juge avait décidé de confier Charles-Édouard, leur enfant unique, au père, Jean-Louis Turquin. D'où l'idée que peut-être le gamin aurait pu être victime d'un règlement de compte entre son père et sa mère. En ce début d'enquête, c'est une hypothèse hasardeuse, mais pour l'instant, c'est la seule piste. Donc, ou c'est le père, ou c'est la mère. La mère a un alibi en béton.
J'étais chez des amis toute la soirée. Et j'ai passé la nuit, j'ai pas bougé.
Les amis habitent à plusieurs dizaines de kilomètres de Nice et ils confirment. Donc, se disent le flic, donc c'est le père. D'autant qu'il est bizarre, le père. Il est d'un calme, d'un flegme incroyable. Il n'a absolument pas l'attitude d'un père dont le fils a disparu. Absolument pas. Voilà comment d'emblée l'enquête se focalise sur le couple et dans le couple, sur le père. Alors d'où viennent-ils ces deux-là qui s'aimaient et qui ne s'aiment plus? Les policiers, à partir du moment où ils soupçonnent le père, veulent forcément tout savoir sur le couple. Michel et Jean-Louis Turquin se rencontrent au début des années 70 à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, en région parisienne. Jean-Louis est en quatrième année et Michel en première année. Et lui, déjà à l'époque, c'est un homme qui en impose. Très sérieux, très appliqué, un peu austère même. L'air déjà très adulte. D'autant qu'à 20 ans, il est chauve, ce qui lui donne un petit coup de vieux. Alors que Michel, c'est tout l'inverse. C'est une gamine. Une petite brune ravissante, très timide. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'elle était totalement subjuguée par lui. Totalement subjugué. Quelques années plus tard, en 1975, ils se marient et ils font un drôle de choix pour un jeune couple. Jean-Louis Turquin ouvre un cabinet vétérinaire à Nice et Michel un autre cabinet vétérinaire à Colombes, près de Paris. C'est-à-dire que d'entrée, ils mettent 950 km entre eux. Étonnant, ou alors lucide, mais étonnant tout de même. Et ça dure comme ça pendant 6 ans. Et puis finalement, en 1981, Michel rejoint Jean-Louis à Nice. Et au passage, elle rejoint sa clinique vétérinaire, ce qui double son activité. Autant vous dire que financièrement, ça va. Deux vétérinaires à Nice, la ville des chiens-chiens à Saint-Mémère, ça va plutôt bien. Ce qui permet à Jean-Louis de flamber, parce que c'est un flambeur, Jean-Louis, sous ses côtés austères. Il commence par acheter une villa avec piscine, 10 millions de francs, 1,5 million d'euros. Et dans la foulée, il s'offre une Rolls. Et après, les croisières, les palaces, les restaurants étoilés, la grande vie. Même si, et ça tous les proches le disent, le couple ne va pas bien, déjà. Là-dessus, Michel tombe enceinte. Et c'est un accident.
Je voulais pas d'enfant, moi. J'avais pas de vocation pour être mère. Bon, après, quand il est arrivé, évidemment, je l'ai aimé.
Un de ses amis raconte que quand Michel tombe enceinte, elle dit des choses comme « J'ai un cancer qui me pousse dans le ventre ». C'est vous dire. Alors que Jean-Louis est aux anges. Il en rêvait de ce gamin qui s'annonce. Est-ce qu'à cette époque-là, Michel avait des amants? Oui. Oui, et certains soirs, elle découchait. C'est dans ce contexte tendu que naît Charles-Édouard en 1982. Et comme on pouvait s'y attendre, puisqu'elle ne voulait pas d'enfant, Michel le rejette. Le gamin passe la plupart du temps chez ses grands-parents paternels, les parents de Jean-Louis. Et le couple se délite un peu plus. Heureusement, la maison est grande, ils peuvent en occuper chacun un bout sans jamais se croiser. Charles-Édouard, qui vient de disparaître, a donc grandi dans une ambiance à couper au couteau. Rapidement, ses parents ne prennent même plus ni leur déjeuner, ni leur dîner ensemble. Ils ont deux vies parallèles. Et lui au milieu. Allez-vous étonner qu'il soit timide et mélancolique, ce gamin. En 1988, on note une tentative de reprendre la vie commune, mais c'est un échec. Et un jour de 1991, après une énième dispute, c'est la séparation. Michel se réfugie chez des amis et elle engage une procédure de divorce, ce dont Jean-Louis ne veut pas. Il lui envoie des lettres dans lesquelles il la supplie de revenir. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Et un rendez-vous de conciliation de divorce est fixé au 4 avril 1991. Et Charles-Édouard disparaît 15 jours avant. Vous comprenez mieux pourquoi d'entrée, les policiers se disent « ça s'est passé là ». Dans le couple. Quand les policiers demandent à Michel ce qu'elle pense de la disparition de son fils, sa réponse est sans ambiguïté.
Mais enfin, c'est Jean-Louis qui a fait le coup. C'est évident. Il n'a pas seulement fait disparaître mon fils. Il l'a tué. Et j'en ai la preuve.
De quelle preuve parlez-vous, madame?
Eh bien, j'ai eu une conversation avec lui en tête à tête. Et il me l'a avoué. Il m'a dit qu'il avait tué notre fils. Il me l'a dit.
Mais ça n'est pas une preuve, ça. Elle n'a pas l'enregistrement de cette conversation. Devant une cour d'assises, ça ne pèse rien. Si il n'avoue pas, ça ne sert à rien. Mais ça donne une idée aux policiers.
Vous pouvez peut-être nous aider, madame. Est-ce que vous accepteriez de vous équiper de magnétophone à cassette caché sur vous, on vous fournira le matériel, et d'amener votre mari à vous faire à nouveau des confidences? Vous accepteriez ça?
Oui, oui, je peux le faire.
Le soir même, elle glisse un magnétophone cassette dans son sac à main et elle invite Jean-Louis au restaurant. Mais il ne lui dit rien de compromettant. Tant pis. Elle lui fixe un deuxième rendez-vous, cette fois à la clinique vétérinaire. Et ça marche.
Il m'a dit, enfin, la première fois qu'il l'avait tué. Ensuite, il m'a dit comment. Quand il me l'a avoué, je l'ai cru. Je le crois. Il en parlait avec beaucoup de détachement, comme si c'était quelque chose de passé, à oublier. Je veux dire, comme il disait, il faut fermer la parenthèse. C'est le passé, Charles-Édouard, c'est le passé.
Dans la foulée, Jean-Louis Turquin est placé en garde à vue.
Monsieur Turquin, j'ai quelque chose à vous faire écouter.
Le son n'est pas très bon. Il est pollué par les cris d'un perroquet de la clinique. Mais Jean-Louis Turquin admet sans discuter que c'est sa voix et que c'est la voix de sa femme.
Non mais attention, hein. C'est ma voix. Hein. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre, quoi. C'était, comment dire, un jeu. J'ai dit n'importe quoi. Elle avait mis des porte-jartelles pour me séduire. Et donc j'ai dit, ben, ce qu'elle voulait entendre, quoi. Et d'ailleurs, bon, après on a fait l'amour.
Mais à propos, qu'entend-on sur cette bande magnétique?
C'était mieux de l'étrangler. Parce que si j'avais pris un canif, il y aurait eu du sang partout, quoi. Mais je souhaite pas parler de ça. Je l'ai enterré près d'un arbre sur les hauteurs de Nice. Mais faut oublier ça, hein, Michel? Maintenant, je veux plus parler de ça. Il faut refermer la parenthèse. Et surtout, il faut qu'on reprenne la vie commune. Toi et moi.
Et là, on entend Michel qui tente de lui faire dire où est enterré Charles-Édouard.
Oh, mais je sais pas, Michel. Je me rappelle plus. En plus, ça fait un certain temps, hein. Je me rappelle plus. De toute façon, tu trouveras rien. Faudra vraiment que tu sois force, Michel, parce que personne ne l'a trouvé jusqu'à présent.
Vous avouerez que c'est très explicite, que ça ressemble assez peu aux mots d'un homme qui dit à sa femme ce qu'elle veut entendre sous prétexte qu'elle a des porte-jartelles et qu'il veut la sauter après. Et ça, devant la cour d'assises, ça va peser lourd. Et ça explique qu'à la fin de la garde à vue, Jean-Louis Turquin est inculpé d'assassinat et écroué. À peine arrivé en prison, il entame une grève de la faim. Et pour le défendre, il engage l'avocat Jacques Perra, qui deviendra plus tard maire de Nice et membre du Front National. Jean-Louis Turquin reste 9 mois en prison. Et le juge finit par le laisser sortir en février 1992. Waouh ! Il a pris un sacré coup de vieux, hein.
Ça fait presque 2 mois que je fais la grève de la faim parce que j'avais envie de mourir. Je ne voyais plus de solution. Et j'espère encore retrouver mon fils vivant. Je remercie beaucoup mes avocats. Ils ont fait tout leur possible pour me sortir de prison.
Il est libre donc ? Mais toujours inculpé pour l'assassinat de son fils. Le 4 juin 1992, coup de théâtre. Le journal François publie une information retentissante. Petit 1, Jean-Louis Turquin n'est pas le père de Charles-Édouard. Et petit 2, il le savait, avant la disparition. Il avait fait un test de paternité. Charles-Édouard serait le fils d'un ancien danseur américain devenu un marginal qui fait la manche dans les rues du Vieux-Nice. Il a connu Michel en amenant son chien au cabinet. C'est une révélation redoutable pour Jean-Louis Turquin. Parce que jusque-là, on se demandait pourquoi il l'aurait tué. Et là, on a un mobile. Il a tué ce gamin parce que ça n'était pas son fils. Parce qu'il a découvert qu'il était cocu depuis longtemps. Dans les 2 années qui suivent, la presse se désintéresse de cette affaire Turquin. L'enquête ne révèle rien de nouveau. Un procès est prévu en mars 1994, mais il est reporté. Car en janvier 1994, l'affaire connaît un nouveau rebondissement.
Charles-Édouard serait toujours vivant. Le rapport d'un détective privé engagé par le père a pour le moins semé le doute dans l'esprit de la justice. En effet, ce détective a pris l'été dernier Madame Turquin en filature, l'a suivie de Nice à Orly, d'Orly en Israël, où elle s'était inscrite pour un mois à l'université, et jusque dans un kibboutz au sud de Tel Aviv. Là, il a retrouvé deux témoins qui pourraient bien faire rebondir l'enquête. Ces deux personnes affirment avoir vu Michel Turquin ce jour-là en compagnie d'un enfant. Ils l'ont reconnu sur des photos. Cet enfant serait Charles-Édouard, âgé aujourd'hui de 11 ans. Un troisième témoin, une institutrice, se souviendrait même l'avoir eu quelques semaines dans sa classe.
Et Jean-Louis Turquin, évidemment, s'engouffre dans la brèche. Il s'envole pour Israël avec ce détective privé. Et là-bas, il envoie des notes au procureur. Il a rencontré des commerçants qui disent avoir vu une dame qui ressemblait à Michel, accompagnée d'un enfant qui ressemblait à Charles-Édouard. Mais rien de concret, rien de solide, pas de preuve, quoi. Le coup de théâtre fait pchit. Jean-Louis Turquin sera donc jugé pour l'assassinat de son fils. Son procès est programmé pour mars 1997. Le premier jour du procès, d'entrée, le président diffuse la cassette des aveux. Et l'effet est désastreux pour la défense de Turquin. D'autant qu'interrogé dans la foulée, il patauge.
Un jour, Michel m'a dit « Ok, je veux bien faire l'amour avec toi, mais il faut que tu me dises que c'est toi qui as tué Charles-Édouard. » Bon, elle avait l'air plus heureuse comme ça. Alors je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Mais je trouvais ça horrible. Mais elle était ravie, quoi. Mais je suis incapable d'avoir tué mon fils, monsieur le président.
Madame Turquin, quel est votre sentiment aujourd'hui sur votre mari?
Mon sentiment? Mais je pense que c'est l'assassin.
On en vient ensuite à la piste israélienne. Et là, tout le monde piaffe d'impatience. Parce que la défense a fait venir ses témoins d'Israël. On parle d'une institutrice qui aurait fait la classe à Charles-Édouard et d'un restaurateur qui aurait servi à manger et à la mère et à l'enfant. Si c'est le cas, ça va faire basculer le procès. Les voilà qui entrent dans la salle d'assises, ces témoins. Un homme et une femme. Tout le monde retient son souffle. Sauf que la dame n'est pas institutrice et que le monsieur n'est pas restaurateur. Ils sont tous les deux coiffeurs à Tel Aviv.
J'ai peut-être vu une dame qui ressemblait à Madame Turquin. Avec un enfant de 7, 8, 9 ans, qui ressemblait au petit Charles-Édouard.
Vous avez remarqué le peut-être? Et puis ils disent que l'enfant avait 7, 8, 9 ans. Or, à l'époque, Charles-Édouard était censé en avoir 12 et demi. Quant à la date à laquelle il les aurait vus à Tel Aviv, ça ne colle pas. Michel Turquin apporte la preuve que ce jour-là, elle était à Nice. Le soufflet retombe d'un coup. Le quatrième jour du procès, le président ordonne un transport sur les lieux. C'est assez rare, ça, dans les procès d'assises. C'est-à-dire qu'il amène tout le monde dans la grande maison de la Bastide Haute. Le greffier, l'huissier, les jurés, les avocats, l'avocat général et les journalistes. Il veut que chacun voit l'endroit où Charles-Édouard a disparu. Et que chacun se pose les questions qui vont avec. Comment un enfant de 7 ans a pu quitter cette maison clôturée de toutes parts en pleine nuit, en n'emportant rien avec lui, et sans que son père qui dormait à côté ne s'en aperçoive? Pendant trois quarts d'heure, les jurés déambulent dans la propriété et en maître des lieux. Jean-Louis Turquin fait la visite.
Et là, ben voilà la chambre où je dormais avec Charles-Édouard quand il a disparu.
Et là, surprise. Parce que quand il décrivait la scène, lui et son fils dormant dans la même chambre, on imaginait que les lits étaient séparés de plusieurs mètres. Ils sont quasiment collés. Le gamin n'a pas pu se lever sans réveiller son père. Et c'est pas tout, la porte de la chambre. Elle est massive, et elle grince quand on l'ouvre, et le loquet fait un bruit strident. On a de plus en plus de mal à croire que le père ne s'est pas réveillé. Quant à la porte d'entrée, elle est fermée avec un gros verrou, pas du tout facile à manipuler par un petit garçon de 7 ans. Et ce verrou grince, lui aussi. Ça n'arrange pas vos affaires, tout ça, monsieur Turquin. Retour au palais de justice pour la dernière ligne droite du procès. À l'issue d'une longue plaidoirie, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Ensuite, les avocats plaident et Jean-Louis Turquin a la parole en dernier.
Depuis 4 jours, on m'accuse. Mais j'ai pas tué mon fils. Depuis 6 ans, je le cherche et je prie.
Après 2h40 de délibération, le verdict tombe. Jean-Louis Turquin est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Et donc il part en prison pour longtemps. Et l'affaire s'efface de l'actualité, pendant 2 ans. Mais en juillet 1999, coup de théâtre, un journaliste indépendant et un détective affirment que Charles-Édouard Turquin est vivant. Ils l'ont retrouvé en Israël. Et l'avocat du père s'en délecte déjà.
C'est un adolescent qui a le même âge, environ 16 ans, qui est en Israël depuis 8 ans, c'est-à-dire l'époque de la disparition de Charles-Édouard. C'est un garçon qui n'a aucune filiation officielle en Israël, qui se trouve dans une yeshiva à Tibériade, c'est-à-dire dans une école rabbinique. C'est Charles-Édouard Turquin. Cet adolescent parle couramment hébreu, mais manifestement, et ça c'est le religieux qui le précise, il a, dit-il, un comportement, peut-être d'accent européen.
Charles-Édouard vivrait en Israël sous le nom de Benjamin Madar. Et vous aurez remarqué qu'à ce stade, le détective et le journaliste ne l'ont pas vu. Il s'appuie uniquement sur les dires d'un religieux, qui est donc l'homme qui a vu l'ours. Ce religieux, les proches de Jean-Louis Turquin le font venir à Nice. Ils l'emmènent directement à la police judiciaire. Les policiers entendent son témoignage et ils décident d'envoyer tout de suite sur place, en Israël, un commandant de police. Il y va. Il rencontre le jeune Benjamin. Et c'est la douche froide. Parce que le gamin ne parle pas un mot de français. Mais surtout, il a été adopté à la naissance par une famille israélienne. Ça n'est donc pas Charles-Édouard Turquin. Il n'y aura pas de révision. Il n'y aura pas de nouveau procès. Mais il y aura d'autres rebondissements. En 2003, un détenu du centre pénitentiaire de Toul écrit au procureur. Il raconte qu'un autre prisonnier lui a dit « J'ai réussi à foutre un bourgeois en tôle pour perpète ». Ce détenu lui a raconté qu'il avait écrasé le petit Charles-Édouard par accident, alors qu'il se trouvait en pyjama au milieu de la route la nuit, et qu'il s'est débarrassé du corps. Le nom de ce détenu? Ah, il refuse de le dire. Il dit qu'il veut d'abord qu'on le libère. Et c'est pas du tout le genre sain de la justice française. Et donc ce monsieur est condamné à 12 mois de prison pour refus de fournir un témoignage susceptible d'innocenter un condamné. En mars 2006, en raison d'un comportement irréprochable en prison, Jean-Louis Turquin est libéré sous le régime de la liberté conditionnelle. Il a 56 ans et une femme l'attend devant la maison d'arrêt. Elle s'appelle Nadine et elle a découvert son histoire à la télévision. Alors elle lui a écrit, elle est allée le voir toutes les semaines. Bref, elle est tombée amoureuse et elle l'a épousé en prison à Fresnes. Elle est la nouvelle Madame Turquin. Les deux amoureux s'installent dans une petite maison en Provence et l'année d'après, nouveau rebondissement. Sur le flanc d'une montagne à Duranus près de Nice, on retrouve un petit crâne d'enfant. Et si c'était le crâne de Charles-Édouard? Mais non, 4 mois plus tard tombent les résultats des analyses génétiques, ça n'est pas le crâne de Charles-Édouard. Mais ça n'est pas fini. Il me reste à vous raconter un ultime rebondissement, et pour le coup celui-là, c'est un vrai rebondissement. Le 7 janvier 2017, Jean-Louis Turquin est retrouvé mort chez lui, sur l'île de Saint-Martin, aux Antilles, où il avait fini par s'installer avec sa femme, Nadine. Il a été assassiné. On lui a tiré une balle dans le dos, pile entre les deux omoplates. du 9 mm. Aucune trace d'effraction. Mais la porte d'entrée et le portail restaient souvent ouverts. C'est Nadine, sa femme, qui a découvert son corps.
Je l'ai trouvé mort à la maison, en rentrant d'une soirée.
Les gendarmes de Basse-Terre font alors des prélèvements sur les mains de Nadine Turquin, avec ce qu'on appelle un tampon noir. Et la grosse surprise, elle a de la poudre sur les mains.
Mais ça, c'est parce que je l'ai touché à l'épaule. Et puis j'ai touché des objets autour.
C'est possible. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'elle l'a tué. D'autant qu'on retrouve son ADN sur des débris de glace près du cadavre. On apprend que le couple était au bord de la séparation. Le 28 avril 2017, Nadine Turquin est mise en examen pour le meurtre de son mari. Et elle est écrouée. Et pourtant, elle a un alibi solide. Elle était chez des amis qui attestent qu'elle n'a pas bougé de la soirée. 3 mois plus tard, son avocat obtient sa remise en liberté. Et dans la foulée, il obtient la levée de sa mise en examen, en s'appuyant sur une expertise. Une expertise qui dit qu'il est tout à fait possible qu'en touchant le corps de son mari, Nadine ait recueilli ces fragments de poudre qu'on a retrouvés sur ses mains. Et finalement, le 26 mai 2020, le juge d'instruction rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Nadine Turquin n'a pas tué son mari. Qui l'a tué? Eh bien, sans doute, on ne le saura jamais. Et est-ce que c'est le dernier rebondissement de cette affaire? Je dirais probablement. Mais restons prudents. J'ai demandé à maître Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris, de débriefer cette histoire avec moi. Alors maître, vous, dans ce dossier, vous avez eu 2 rôles. D'abord, vous avez été l'avocat de Jean-Louis Turquin dans sa demande et sa tentative de révision de sa condamnation. Et dans un deuxième temps, vous avez été l'avocat de Nadine, poursuivie pour le meurtre de Jean-Louis Turquin. D'ailleurs, c'est un sacré grand écart, non ?
Ben non, pas tout à fait, parce que en réalité, j'ai obtenu surtout la remise en liberté de Jean-Louis Turquin lorsqu'il était détenu à Casabianda. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Jean-Louis Turquin a été tué et qu'on a découvert son corps donc en janvier 2017, la première chose qui m'a été demandée fort naturellement par Nadine Turquin, c'est que l'on puisse se constituer partie civile. Et Nadine Turquin s'est constituée partie civile dans cette procédure à ce moment-là, ce qui fait que pendant plusieurs mois, elle a eu accès à cette procédure et elle a demandé à ce qu'un certain nombre d'investigations soient réalisées. Et en fait, ce qui a été totalement surréaliste dans ce dossier, c'est que les enquêteurs ont fait avec le procureur de la République une exploitation absolument hallucinante d'un rapport d'expertise en posant des conclusions définitives, à savoir que ça ne pouvait être que Nadine Turquin qui était l'auteur de ce crime ou qui était à côté du tireur, tout simplement parce qu'on avait retrouvé des traces de résidus de poudre sur ses mains.
Oui, mais avouez, maître, que ça... Évidemment, c'était séduisant. Je sais que vous en voulez énormément à ce procureur. D'ailleurs, vous l'avez attaqué en diffamation, n'est-ce pas ?
Je vais l'attaquer en diffamation, absolument.
C'était séduisant parce que on trouvait l'explication à quelque chose. Nadine Turquin est une femme que j'ai un peu connue, qui est assez naïve, très gentille, mais un peu naïve. Elle s'est emballée pour cet homme-là, et puis elle a fini par comprendre qu'il avait tué son fils, et donc elle lui a réglé son compte. Le raisonnement est séduisant.
Je crois que vous avez totalement tort, monsieur Ondelat. Là, vous vous méprenez totalement. D'abord, Madame Turquin n'est pas naïve. C'est une femme qui est d'une grande intelligence, qui est d'ailleurs en train d'écrire un livre. Elle est cultivée. C'est une femme de lettres. Et donc, si elle s'est mariée avec monsieur Turquin, c'est parce qu'elle l'aimait, non pas parce qu'elle était naïve. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Non,
je vous dis pas que c'est ce que je pense, maître. Je vous dis que c'est ce raisonnement qui semble s'imposer.
Donc, il y avait une interrogation dans votre propos, mais je vous rétorquerai la chose suivante. Si c'était le point de vue de la justice, mais alors elle devrait être renvoyée devant une cour d'assises. Et on devrait la juger pour cela, avec un mobile qui est celui que vous décrivez. Non, en l'espèce, vous voyez ce qui s'est passé, c'est un emballement médiatique invraisemblable, parce qu'il qu'il y a eu une communication très forte à l'époque qui a été réalisée pour pointer du doigt Nadine Turquin comme étant l'auteur de ce crime, avec une communication qui a été relayée au niveau local et national, et à partir de cet instant, la présomption d'innocence de Nadine Turquin avait totalement disparu, et il fallait arriver à remonter et à détruire cette accusation qui était fondée tout de même sur quelque chose qui était très exagéré. Et puis, dans tout cela, et c'est ce qui a été aussi déterminant, jamais la justice n'a pu remettre en question l'alibi de Nadine Turquin, à savoir qu'il lui était absolument impossible d'être sur les lieux dans la maison familiale pour tuer son mari à l'heure où il a été effectivement tué, c'est-à-dire
puisqu'elle était au restaurant.
Puisqu'elle était au restaurant. Mmh. Donc ces éléments matériels conjugués au fait qu'un collège d'experts, des experts suisses et des experts belges, un collège d'experts internationaux sont venus expliquer que ce phénomène de contagion expliquait parfaitement...
La contagion de la poudre, hein, c'est-à-dire en touchant quelqu'un, s'il a de la poudre sur lui, on en prend sur les mains, quoi, c'est ça le raisonnement.
Exactement, exactement. Et puis, vous voyez ce qui a été totalement oublié aussi dans la comparaison avec la présence de résidus de poudre sur les mains de Madame Turquin et l'absence sur le corps de Monsieur Turquin, bah, c'est que les tamponnoirs, vous y avez fait allusion tout à l'heure, ces fameux tamponnoirs, ils ont été réalisés sur le corps de Monsieur Turquin 6 jours après la découverte de son corps, alors qu'il avait été déjà autopsié et lavé, ce qui enlevait toute pertinence et tout sérieux à cette expertise.
Une question tout de même, à votre connaissance, Nadine n'a pas changé d'avis sur son mari aujourd'hui décédé, elle est toujours convaincue qu'il n'a pas tué son fils.
Mais non seulement elle est convaincue qu'il n'a pas tué son fils, mais au surplus, elle n'exclut absolument pas de pouvoir, ce que la loi permet, redéposer une demande en révision pour faire en sorte que son mari soit innocenté, parce que nous pensons qu'il y a des éléments qui sont de cette nature, et en particulier, vous l'avez avoué vous-même.
D'ailleurs, en l'état, la mort de Jean-Louis Turquin met-elle un terme à la tentative de révision de sa condamnation ?
Oui, ça n'a strictement rien à voir. En réalité, il n'y a pas de procédure actuellement de révision. Simplement, il est tout à fait possible pour quelqu'un qui est aujourd'hui décédé de voir l'un des membres de sa famille réintroduire une procédure de révision s'il y a des éléments susceptibles de pouvoir le permettre. Et il n'est pas exclu que Nadine Turquin, qui est son épouse, eh bien, puisse engager une telle procédure parce que c'était la volonté de son mari Jean-Louis Turquin de faire reconnaître son innocence.
Quelle serait pour vous la meilleure piste en vue d'une révision en l'état ? Est-ce que par exemple la piste israélienne continue de vous intéresser ou bien est-ce que vous dites on s'est assez ridiculisé avec ça, c'est pas ça qui va relancer cette affaire ?
Mais il y a une piste procédurale que vous avez vous-même évoqué sans vous rendre compte de sa portée. Vous avez vous-même dit que l'enregistrement qui avait confondu Jean-Louis Turquin avait été réalisé sur l'instigation des enquêteurs.
C'est jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Pardon ?
J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs.
Mais c'est assez hallucinant, mais surtout ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est illicite. C'est-à-dire qu'une preuve déloyale, lorsqu'elle est produite par une personne qui est concernée dans une procédure, peut être accueillie par la justice pénale. Mais aujourd'hui, la jurisprudence, notamment de la chambre criminelle, a beaucoup évolué et refuse que l'on puisse prendre en considération des preuves qui sont déloyales et qui ont été construites par les enquêteurs. Or, cet élément, il est déterminant, parce que, vous l'avez vous-même compris, l'avocat général à l'époque demande la réclusion criminelle à perpétuité contre M. Turquin, il est condamné à 20 ans, et on ne retrouve jamais le corps de cet enfant. Et en réalité, pendant des années, non seulement la justice l'a encore cherché, nous le savons, mais Jean-Louis Turquin l'a cherché lui-même, puisqu'il ne savait pas où était le corps de son fils. C'est donc la raison pour laquelle il y a des moyens procéduraux. Là, je ne vous parle même pas d'une piste. Je vous parle des moyens procéduraux que Monsieur Turquin voulait utiliser pour voir reconnaître son innocence dans la mesure également, et il ne faut pas l'oublier, qu'à l'époque, il n'y avait pas de procédure d'appel devant une cour d'assises. Il a été condamné une seule fois et il n'a pas pu faire appel de sa condamnation.
J'entends bien que ces enregistrements sont déloyaux et que... mais vous auriez pu... on aurait pu plaider ça au moment de la cassation, après la condamnation. Pour obtenir une révision, il faut apporter des éléments nouveaux. Il ne s'agit pas d'en soustraire. Là, en l'occurrence, il s'agirait de soustraire cette pièce, qui est l'enregistrement du dossier Turquin. Mais ce n'est pas l'esprit de la procédure de révision. La procédure de révision, c'est d'apporter du nouveau.
Non, la procédure de révision, c'est d'arriver à démontrer que nous avons des informations nouvelles pour justifier qu'à l'époque, ces enregistrements ont bien été effectués à la demande des enquêteurs. Ce qui n'a pas pu être, devant la cour d'assises, développé comme étant un moyen de nullité. Donc c'est un élément nouveau, c'est un élément procédural essentiel qui montre que l'accusation s'est fondée principalement et essentiellement sur une preuve que vous dites vous-même être déloyale, mais qui a été construite conjointement à la fois par les enquêteurs et par son ex-épouse. Et ça, c'est absolument inadmissible.
Il pourrait y avoir encore un rebondissement, en vérité. C'est qu'on découvre le corps de Charles-Édouard. Dans votre esprit, et celui de Nadine Turquin qui défend la mémoire de son mari, tout ça, on l'a bien compris. Dans votre esprit, Charles-Édouard est vivant ou il est mort ?
Si j'ai pour mémoire ce que m'a dit Jean-Louis Turquin, son fils est toujours vivant, de telle sorte d'ailleurs que lorsque son épouse est décédée, rendez-vous compte, sa première épouse est décédée, il a fallu s'occuper de la succession de cette épouse. Or, son fils n'était même pas déclaré décédé à l'état civil. Il a fallu que de très nombreuses années, la justice niçoise fasse une procédure particulière pour voir officiellement déclaré décédé son fils. Ce qui vous montre bien, tout de même, qu'il y avait un gros problème dans ce dossier.
Donc pour vous, pour Jean-Louis Turquin, avant sa disparition, et aujourd'hui pour Nadine, qui perpétue son combat, Charles-Édouard est vivant en Israël.
Charles-Édouard est vivant, elle ne sait pas où il se trouve. Cette piste israélienne, vous l'avez expliqué vous-même, elle a fait faux bond. Il est parfaitement possible dans les mois, dans les années qui viennent, que l'on sache davantage où se trouve Charles-Édouard.
Merci Olivier Maurice d'avoir accepté de revenir sur cette affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.